Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. RMC, entre les poteaux,
Winnie Claret.
Salut à toutes, salut à tous. C'est le money time du top 14, certes, mais on fait quand même un crochet par le rugby à 7. Parce que oui, les Bleus sont champions du monde, sacrés à Madrid dimanche soir. Ils ne pouvaient rêver meilleur tremplin pour les Jeux de Paris. Dans 50 jours, nos sétistes tricolores ouvriront le bal des JO au Stade de France pour inscrire leur nom, on y croit, au panthéon des champions olympiques. Avant ça, ils vont devoir faire redescendre l'euphorie madrilène, analyser les clés du succès en Espagne et cibler les derniers réglages à faire avant que la liste des joueurs sélectionnés tombe. Tiens, en parlant de liste, Antoine Dupont y sera-t-il, lui ? Trois tournois, trois médailles, dont deux en or pour le Toulousain. Pas trop de place au doute, mais on va quand même demander à son capitaine, qui doit en avoir un peu marre, hein, qu'on lui parle sans cesse de Dupont. Paul-Henri Va est avec nous pour revenir sur cette saison folle et sur l'immense rendez-vous de l'été. Lui aussi était à Madrid pour le week-end dernier. Il a commenté la finale France-Argentine. Pierre Thévenet est rentré et nous racontera le week-end des Bleus entre les potes et au Special Sevens. Épisode 12, c'est parti.
Riva, they've got numbers. Joseph in the corner for France. There's their second. You felt like it was coming. And on the cut is Jean-Pascal Barak. And now Stéphane Perez et Don Martin. Dupont, two to beat. Inside ball to Riva. It had to happen at some point. Dupont with his second gold medal of his rookie season and the HSBC Sevens champions for the first time ever are France.
Trop la classe de terminer cette production sur Queens. Merci à Roxane Lacusca qui réalise. Bonjour Paulin Riva.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Remis de tes émotions, tu n'as pas trop mal à la tête ?
Un peu fatigué. Non, parce que voilà, c'était un sacré tournoi pour nous, un sacré résultat. Donc, on a fêté comme il se devait, mais on en revient pas quand même.
Bon, en tout cas, ça nous rassure, c'est que vous savez encore faire la fête. Et ça, c'est bien. Salut Pierre aussi. Salut Pierre Thévenet. On va quand même saluer ta performance du week-end. Parce que toi, t'avais le tournoi de rugby à 7 à Madrid à couvrir. Mais eh ben, à Madrid, il se passait plein de choses ce week-end. Parce qu'il y avait aussi le Real qui jouait sa finale de Ligue des Champions et qui l'a gagné. Et puis, il y avait aussi l'officialisation du transfert d'un certain Kylian Mbappé. Au Real, toujours.
Ça prend un petit peu de temps, mais c'était que du plaisir.
Ça va, tu t'en es sorti, tu n'es pas mort. Déjà,
non,
ça nous rassure, t'es avec nous en studio, tu es rentré. Bravo à toi.
Tout bon et on revient sur le rugby, donc tout va bien.
Voilà, c'est surtout ça, c'est qu'on a fini par retomber sur nos pattes. Paul-Henri Va, je vais faire rapidement ta fiche, ton profil, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. Tu as 30 ans, tu es gersois. Ils ont le vent en poupe, décidément, c'est gersois dans le rugby. Capitaine de l'équipe de France de rugby à 7. 243 matchs avec les Bleus, si nos calculs sont bons. 5 médailles d'argent et 2 médailles d'or à ton actif, dont cette dernière victoire en finale du tournoi de Madrid dimanche face aux patrons argentins. Pierre, on va rembobiner avant de poser des questions à Paula. Tu nous refais le film de cette finale ?
Eh ben, c'était une finale plutôt maîtrisée pour l'équipe de France. Bon, comme dans tous les matchs face à l'Australie, les Bleus encaissent le premier essai. Ça a été le cas dans quasiment toutes les rencontres de ce tournoi. Après avoir pourtant bien maîtrisé, en plus, la première mi-temps, un essai en coin non transformé pour les Argentins. Après quasiment 6 minutes de jeu, il n'y avait eu aucun point en 5 minutes 30. On se dit que ça va être compliqué. Heureusement, une contre-attaque depuis l'embut. French Flair, un numéro de Varian Pasquet qui casse deux plaquages, qui sert Jefferson Lee Joseph à l'intérieur pour Barak, puis pour Stephen Parezedo qui s'arrache sur 50 mètres. On l'a vu vraiment tirer sur les bras pour aller finir sous les poteaux. Ça fait 7-5 en faveur des Français à la mi-temps. On se dit que ça va être très serré, mais en deuxième période, les Français dominent, tiennent le ballon et mettent à la faute les Argentins qui sont réduits à 6. Et plein de patience après une touche à 5 mètres, un point de fixation dans le fermé. On écarte pour envoyer Jefferson Lee Joseph à l'essai en bout de ligne. Et puis à 2 minutes du terme, un petit 1-2 entre Gersois, Antoine Dupont pour Paulin Riva, pour venir marquer le dernier essai. Le capitaine Paulin Riva qui scelle la victoire des Bleus. Petit accrochage à la fin, on s'est un petit peu bagarré entre Français et Argentins. C'est rare sur le circuit à 7, il y avait beaucoup de tension dans ce tournoi, mais ça n'y changera rien. Les Bleus sont champions du monde.
Bon, Paulin, il y avait déjà eu la médaille d'or à Los Angeles début mars, qui était folle, hein, puisque ça faisait 19 ans que la France attendait un nouveau titre sur le World Seven Series. Mais ce week-end, vous avez été sacré champion du monde. Là, c'est historique. Qu'est-ce que ça représente pour toi ?
Oh ben c'est le fruit d'un travail qui est extraordinaire. Hein. C'est, on voit les années derrière, hein, les années à cravacher, à travailler très dur, à sortir, je pense aussi à sortir de nos zones de confort en allant chercher d'autres compétences. Vous avez pu voir que le rugby à 7, c'est une discipline qui demande beaucoup, que ce soit en termes physiques, en termes mentaux. Et on allait chercher des compétences de danse, des compétences de mental. On allait chercher plein d'outils. Donc on passe à tout ce travail qu'on a fait et ben, qui paye, qui a payé ce week-end avec une performance collective vraiment XXL. Et voilà, on s'était donné comme objectif de remporter un tournoi cette saison, de savoir ce que c'était de gagner. Et puis voilà, après avoir gagné à Los Angeles, on avait l'opportunité, ce nouveau championnat, pour nous, on l'a senti comme une réelle opportunité de pouvoir exister, de pouvoir, pour la première fois de l'histoire de l'équipe de France à 7, d'être sacré champion. Et voilà, donc on s'est donné les moyens d'y arriver ce week-end. Et petit à petit, après chaque match, on a essayé de construire, de se remettre en question, notamment après le match d'Argentine où on avait été en difficulté sur certains secteurs.
Oui.
Mais voilà,
un tournoi de 7,
ça se construit au fur et à mesure. Ouais. Et voilà, et on est arrivé au bout. Donc c'est extraordinaire pour nous. Maintenant, on avait besoin de ça pour avoir encore plus d'expérience collective. Gérer nos émotions lors de grands événements comme celui-ci, notamment ce dernier match là, où on a senti pas mal de tension. pour arriver aux Jeux Olympiques avec le plus d'expérience possible, le plus de connexion entre nous et pour décrocher une médaille pour la France.
Alors justement, l'émotion, la fierté, on l'a aussi ressenti après match dans la voix de Jérôme Daré. On va écouter ton sélectionneur.
On l'avait mis à un objectif, hein. Voilà, ils ont réussi à le faire, c'est incroyable. J'arrive pas à m'en rendre compte un peu de ce qui se passe en champion du monde là maintenant. C'est un truc de fou, donc je suis fier des joueurs, je suis fier du travail réalisé par tout le staff, par toute la base arrière aussi, je le dis souvent, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Et là on est en route vers un futur passionnant, excitant. Voilà. Donc déjà on va savourer ce qui se passe là parce que c'est assez unique, c'est la première fois dans l'histoire de l'équipe de France. On est en train de construire cette histoire-là, cet héritage-là. Je suis assez fier de ça.
On l'a vu très fier, très heureux aussi, Jérôme. On l'a vu sprinter avec le trophée au milieu de la pelouse. Il en revenait pas. Quels ont été ses mots après le tournoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Jérôme Daré?
Bon, beaucoup de joie, beaucoup de fierté. On n'a pas eu de débrief collectif parce que voilà, on a voulu vraiment profiter de l'événement. Mais voilà, il a eu des petits mots pour chacun où c'était très fier, très content pour nous. C'est quelqu'un qui il aime ses joueurs, il aime son staff, il est passionné du rugby à 7. Et il était vraiment fier de tout ce travail. Je pense que c'est un énorme travailleur aussi. Donc c'est une belle récompense pour le groupe. Il faut savoir que c'est beaucoup de travail derrière, que c'est pas aussi arrivé par hasard. Qu'on a l'impression d'être à la place à laquelle on a essayé d'atteindre. Donc, on est vraiment content pour lui et surtout très content pour nous.
Alors, Paulin, à Los Angeles, donc la première médaille d'or, vous aviez un boulevard pour décrocher cette victoire, puisque les Argentins, les Néo-Zélandais, les Fidjiens et les Australiens étaient absents du dernier carré. En Espagne, là, il a fallu battre les Fidjiens en demi, l'Argentine en finale. C'est encore mieux comme ça?
Oui, ça a beaucoup de valeur, beaucoup de saveur aussi, de battre les Fidjiens double champion olympique et forcément l'Argentine qui a vraiment dominé quand même la saison en gagnant deux ou trois tournois, je ne sais plus exactement, mais voilà, qui dominait vraiment le series et qui finit premier de la saison régulière. Donc beaucoup de fierté et on va vraiment pouvoir s'appuyer sur ces performances-là collectives sur ce tournoi pour la prochaine échéance qui va arriver là, très rapidement.
Tu sens que vous avez passé un cap cette saison?
Un cap, ça fait quand même peut-être pas plusieurs années, mais plusieurs tournois que je pense qu'on l'a franchi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la saison dernière, quand même, on finit quatrième mondial en battant plusieurs fois l'Australie, les Fidji. C'est la Nouvelle-Zélande qui nous ont posé beaucoup de problèmes la saison dernière, mais cette année qu'on a réussi à maîtriser quelques débats face à eux, notamment à Perth, on avait gagné sur un joli match. Je pense qu'on arrive mieux à gérer vraiment les matchs sous pression. On arrive à prendre des décisions collectivement qui sont vraiment intéressantes. Hein. On arrive à vraiment à gérer l'événement, quoi. Et ça, c'est ce qui fait la différence, je pense.
Au-delà de cette saison, ça fait un moment quand même que vous mijotez ce succès. Si on remonte un peu en arrière, à trois ans en arrière, vous ratiez la qualif pour les Jeux de Tokyo. Cette fois-ci, vous arrivez en favori à Paris. Est-ce que en 2020-2021, cette déception, elle a créé un déclic au sein du groupe ?
Bon, je pense que oui, on est tous athlètes de très haut niveau. Donc forcément, ça a construit une frustration très très grande chez nous. On voulait, enfin voilà, dans le rugby à 7, les Olympiques, c'est quand même la plus grande compétition, et même dans tous les sports, c'est la plus grande compétition au monde qui existe, qui réunit une grande totalité des pays. Donc il y avait énormément de frustration, et dès qu'on a loupé cette qualification, on s'est mis au travail avec comme objectif Paris dès le lendemain de Tokyo, quoi. Donc je pense que vraiment on a changé, les joueurs ont changé de braquet. J'aime bien le dire, parce que il y a une collaboration entre les clubs de top 14 Pro D2 et la fédération qui est vraiment extraordinaire, et qui nous permettent d'avoir des joueurs à très très haut potentiel qui alimentent énormément l'équipe de France. Et aujourd'hui, on a des garçons comme Jefferson Joseph, comme Ryan Rebadge, comme Aaron Grandidier ou Antoine Zegdar, et bien évidemment Antoine Dupont, qui alimentent l'équipe de France et qui font qu'elle est performante à chaque sortie.
Depuis plusieurs saisons, vous aviez un peu cette étiquette d'outsider à tous les tournois. On sentait que vous pouviez être dangereux, mais sans être favori. Est-ce que, avec cette victoire, vous êtes champion du monde, vous arrivez en tant que favori au Stade de France pour toi ?
Ben, je pense que oui, vu les dernières prestations qu'on a pu montrer, on arrive en tant que favori, il va falloir bien gérer ça. Mais c'est de la pression positive. On aurait été pas très bon à Madrid, ça aurait pu être plus compliqué. Donc là, on a créé de la confiance, on a surtout, moi je le dis, créé beaucoup d'expérience et de connexion entre nous. Donc je pense qu'on va arriver en tant que favori, mais voilà, le rugby à 7. Te remets vite les pieds sur terre. Donc, il va falloir bien construire nos matchs de poule, monter en puissance. Et comme on a pu le voir à Madrid, même s'il y a un match de poule qui ne se passe pas comme on l'aurait espéré, c'est pas grave, c'est pour se projeter sur le prochain et surtout aller chercher une qualification. Et une fois qu'on s'ouvre les phases finales, après, voilà, c'est rester très soudé, rester très concentré, stratégique. Hein, et gérer ses émotions.
Colin, sur le statut de favori, alors Jérôme Daré, interrogé sur le fait effectivement que vous êtes maintenant des favoris, disait oui, on voulait l'être, mais on est les rookies des favoris, parce qu'il y en a d'autres, des favoris qui d'ailleurs sont de plus longue date, et on parlait notamment des Argentins qui ont dominé cette saison le circuit mondial. Écoute un peu ce que nous dit ton sélectionneur juste après la finale. Il nous parle des Argentins et de cette comparaison, et il nous parle aussi justement de ce statut de favori.
C'est plus fort sur la saison régulière, c'est plus constant, mais il fallait gagner le titre de champion du monde. Voilà. Et on voulait les impacter, on voulait impacter un petit peu tout le monde à ce moment-là. Et on l'a fait avec beaucoup de contenu, donc c'est ça qui est positif. C'est pas sur le coup du sort, on est allé se le chercher, donc ça c'est très important.
Voilà, donc ce que nous dit Jérôme, est-ce que tu nous le confirmes aussi, Paulin ? On l'imagine en même temps que tu ne vas pas contester ton sélectionneur, juste avant la liste, surtout des Jeux Olympiques. Mais effectivement, ce qu'il dit, c'est que les Argentins, ils ont cette constance sur cette saison que vous recherchez peut-être. Mais derrière, vous avez été capable d'aller vous chercher ce titre mondial, et que l'important, c'était peut-être de marquer les esprits, finalement, juste avant les Jeux.
Oui, mais je vais comparer, si on me le permet, je vais comparer ça un petit peu au top 14. C'est la saison régulière et après début des phases finales. Et là, c'était pareil avec Madrid. Ouais. Donc, il y a eu la saison régulière où l'Argentine a été vraiment très, très solide et a réussi à mettre une intensité sur chaque tournoi qui était vraiment impressionnante. Nous, on avait quand même coché comme objectif de remporter Madrid et de saisir l'opportunité sur le moment présent. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et c'est à l'image un petit peu des phases finales où, par exemple, quand on peut comparer ça à Castres ou à Montpellier, qui étaient dans les six premiers de la saison régulière et qui finit champion de France. Donc, il faut savoir saisir l'opportunité. Et je pense que les Jeux Olympiques, c'est le meilleur exemple. Il y aura un tournoi et il va falloir saisir l'opportunité, être très efficace, pragmatique sur le tournoi.
Il va falloir être pragmatique, efficace, résister à la pression aussi sans doute, parce que vous allez être chez vous, vous êtes attendu évidemment, surtout avec ce nouveau statut que vous êtes allé chercher. Est-ce que le fait de jouer au Stade de France devant autant de monde avec toutes vos familles qui seront là, j'imagine, c'est quelque chose dont vous parlez? Est-ce que ça vous met la pression ou au contraire c'est plutôt excitant?
Ben, c'est excitant. Nous, on a quand même l'habitude de jouer dans des grands stades, tels que le Stade de France, avec des supporters arrivant de tous les pays. Sans doute que, et je l'espère, il y aura là un peu plus de Français, et donc forcément un peu plus de personnes pour la France, donc ça sera de la pression positive, ça va nous amener, et voilà, quand on sera sur le terrain et que ça sera dur, ben on entendra tous ces gens qui nous porteront, et ça va forcément, ça va nous donner un regain d'énergie dans les moments durs. Donc on a hâte, on est excité. La pression, on l'a toujours eue, parce que les supporters français de rugby sont très exigeants, mais c'est ce qu'on aime. On aime les rendre heureux, les voir fiers, et en tout cas, on va faire tout le travail nécessaire pour y arriver.
C'est la première fois que vous allez jouer au Stade de France? J'ai pas le suivi là, comme ça, dis-moi.
Alors oui, pour l'équipe de France A7, c'est la première fois, si je ne me trompe pas.
Ok.
Puisque avant, on jouait donc au Stade français.
Ouais, à Jean-Bouin, ouais.
Ensuite, à Jean-Bouin, pardon. Et depuis 2 ans, on faisait des étapes à Toulouse, à Ernest Vallon. Donc là, le Stade de France, ça sera une première pour nous. Donc on va le découvrir, on a hâte. Mais je pense que ça va être un chaudron extraordinaire.
Alors justement, Pierre, sur l'ambiance.
L'ambiance risque d'être dingue, parce que déjà là à Madrid, on en parlait notamment avec Nelson Epe, qui disait qu'on avait l'impression, vous aviez l'impression déjà d'être à domicile, tellement il y avait des Français. Il y avait une grosse bataille d'ailleurs, Franco-Argentine. En finale, c'était sans doute les deux pays les plus représentés. Qu'est-ce que tu penses de tous ces supporters qui vous suivent un peu partout et qui mettent de l'ambiance systématiquement?
Bah, c'est extraordinaire. Pour nous, c'est des fois c'est un peu compliqué quand on est très loin de la maison, quand on va en Australie, en Nouvelle-Zélande, où ben notamment voilà les Français, la communauté française n'est pas très très importante à l'étranger, et ce qu'on peut très bien comprendre. Mais voilà, quand on sent ces Français, nous ça nous donne un regain d'énergie, c'est extraordinaire. Et on a beau être à l'étranger, on sent de plus en plus ces supporters qui nous poussent et qui veulent qu'on les rende fiers. Donc vraiment, c'est une opportunité pour nous, c'est vraiment de la pression que positive. On va s'en servir pour arriver au bout. Donc c'est vraiment extraordinaire pour nous.
Jérôme Daré, on le sait, il est très porté sur la préparation mentale. Comment il vous prépare à ce rendez-vous en particulier, arriver au Stade de France devant ce public, pour les Jeux à la maison?
Ben, on s'y prépare, on essaye surtout d'énormément penser à la performance terrain. Hein. Nous, on est surtout là pour être bon sur le terrain et pas vivre les Jeux Olympiques depuis l'extérieur.
Ouais.
Donc on se concentre énormément sur le rugby. C'est surtout ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce qui va arriver. Pour toute personne, ce qui peut être compliqué à gérer, c'est de ne pas savoir. La peur, c'est surtout ne pas savoir être dans l'inconnu, quoi. Donc on essaye un petit peu de se projeter sur ce que ça va être. Là, on a eu un petit avant-goût à Madrid et on était vraiment heureux. En plus, voilà, on remporte le tournoi, donc c'était vraiment une belle fête. Donc on est conscient de l'attente, surtout. Mais voilà, on se concentre énormément sur le travail. On reste quand même un petit peu dans notre bulle. Et je pense que les images parlent un peu d'elles-mêmes. On a une belle petite bulle, notamment l'échauffement, où voilà, on est un échauffement un peu spécifique.
Ouais.
Mais voilà, c'est notre histoire, c'est notre équipe, donc on se concentre là-dessus.
Parle-nous un peu plus de Jérôme Daré. Tu l'as vu arriver à la tête de l'équipe de France en 2017. Tu étais déjà là avec Jonathan Logel, avec Stéphane Parez et d'autres. Il s'était fixé l'objectif de créer un groupe compétitif, constant sur la performance. Objectif atteint pour lui?
Honnêtement, alors moi je suis arrivé en même temps que lui. Je suis arrivé en même temps que lui et j'ai vu l'évolution. C'est vraiment... moi je suis impressionné par ce qu'a réussi à faire le staff, notamment Jérôme et Christophe Reit. Vraiment, ils ont réussi à construire un projet viable et qui durera dans le temps. Et cette collaboration, je le redis, entre les clubs et la Fédé, elle est extraordinaire. Mmh. Elle nourrit énormément l'équipe de France. Et le staff s'étoffe d'année en année. La fédération mise de plus en plus sur notre discipline, qui est le rugby à 7. Donc c'est vraiment que du positif, et franchement Jérôme et Christophe ont fait un travail un travail extraordinaire. Parce que je me souviens, oui, en 2017, c'était pas les mêmes. On travaillait différemment. Alors le système, on avait toujours le même système d'entraînement à la maison et en regroupement. Mais voilà, le staff était beaucoup moins étoffé. C'était un peu différent, quoi. Et là, on a des outils de performance qui sont extraordinaires.
Jérôme, on le sait, il aime beaucoup vous faire sortir de votre zone de confort. On l'avait vu vous faire danser, notamment à plusieurs reprises.
Vous êtes de bons danseurs maintenant.
De bons danseurs, tous.
Impressionnant.
À Madrid, il nous a parlé de quelque chose que vous aviez refusé de faire ce coup-ci, mais que ça finirait par venir dans les autres tournois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce qui vous fait faire en dehors du rugby pour justement essayer de vous faire sortir de votre zone de confort et de vous faire devenir encore plus un groupe?
Ben, je pense surtout ce qu'il veut. Et ce qui est très important, ça dépasse le rugby, hein, mais c'est être des adultes et des hommes. On nous responsabilise beaucoup. Et on va chercher des compétences autres que le rugby. Parce que le rugby est un sport en plus qui mélange beaucoup de disciplines. Et donc, voilà, on a des intervenants qui nous permettent de tout ce qui est lié à la danse. Et un petit peu maintenant à la chanson, voilà, qui nous permettent de nous connecter entre nous, de aussi prendre confiance, de libérer un peu cette confiance en soi. Je le redis, de nous connecter, et alors, avec la danse aussi, de travailler un petit peu notre lésion, entre les pieds et la tête, hein, ouais. Voilà, qui nous permet peut-être en match de pouvoir avoir un jeu de jambes, des crochets un peu plus... un peu plus dévastateur. Donc voilà, on va se chercher des outils comme ça qui nous permettent de grandir en tant qu'homme et d'être encore plus responsable et de comprendre ce qu'on fait sur le terrain.
Et donc au JO, en cas de victoire, on peut attendre quoi? Une choré, une grande chorale sur le terrain, une chanson?
Oui, musicale,
qu'est-ce qui est prévu? Parce que ça va vraiment être un gros boom.
Mais ça va faire trembler la planète rugby.
Ça va faire trembler la planète rugby et... ça risque d'être le futur du rugby.
Et le futur d'Hollywood aussi, on espère quand même, parce que vous êtes très bon. On parlait de votre statut de favori, on parlait de la progression sur le terrain, mais aussi hors de cette équipe de France depuis les derniers Jeux auxquels vous n'aviez pas participé. Mais des chantiers, il en reste. C'est ce que nous disait Jérôme Daré après la finale. Écoutez un peu justement le point qu'il faisait pour avancer jusqu'au JO.
On est capable. Voilà. Maintenant, on est encore up and down, on est encore un petit peu trop. Donc, il faut qu'on apprenne à être consistant, à avoir de la solidité. Bon, ce genre de victoire-là va nous aider.
Alors, vous êtes trop up and down. On sait qu'il aime bien ce genre d'expression, comme le roller coaster aussi, Jérôme Daré. Mais explique-nous un peu ce qu'il veut dire là, ton sélectionneur, quand il dit que vous êtes encore un peu trop up and down.
Non, mais tout simplement, on peut se référer au précédent résultat avant Madrid, qui était Singapour. Même si le résultat n'est pas négatif, n'est pas catastrophique. Voilà, on perd en quart de finale face à la Grande-Bretagne, en perdant quand même sur un score assez lourd. Et voilà, c'est essayer de réguler ses performances pour toujours garder cette consistance, notamment quand on est sorti de LA, de Los Angeles, pardon, où on est fini premier. Derrière, on va à Hong Kong, on arrive en finale, où on perd sur un score très, très serré face à la Nouvelle-Zélande. Et derrière, Singapour, où on passe un tournoi un peu plus compliqué, avec des stats sur la récupération de ballon, sur les coups d'envoi, vraiment pas très, très bonnes. Où un tournoi, on n'a pas réussi finalement à mettre nos arguments sur la table. Et voilà, je pense que quand il parle de up and down, c'est ça, c'est arriver, même malgré les résultats, arriver toujours sur notre rugby à pouvoir vraiment poser tout notre jeu en place, jouer, vraiment proposer. Et si les autres sont vraiment en pic de forme, sont vraiment meilleurs que nous, voilà, on passera pas. Mais à Singapour, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, pardon. Et c'est ça qu'on peut reprocher un peu à cette équipe pour l'instant. Donc là, on va se projeter sur, on va énormément s'appuyer sur les matchs de Madrid, qui ont quand même été assez costauds, notamment en défense. Et pour arriver aux Jeux Olympiques, vraiment mettre tous nos arguments sur le terrain.
malgré les petites choses qui restent à régler d'ici le 24 juillet, tout le monde joue quand même de mieux en mieux dans l'équipe, tout le monde progresse, il y a des joueurs qui arrivent, des joueurs qui reviennent, je pense notamment à Jean-Pascal Barak qui a fait un bon tournoi ce week-end, qui est précieux au pied notamment, les places vont être très très chères pour disputer les Jeux, tout le monde ne pourra pas y être, même si Jérôme Daret a un peu dédramatisé cette situation ce week-end, nous a dit qu'on verrait bien et que c'était l'équipe qui passait avant tout évidemment, est-ce que quand même entre vous il y a une concurrence qui peut être saine mais qui existe?
Non mais la concurrence, elle est dans tous les sports professionnels, ça c'est une certitude. Maintenant, ça c'est quelque chose qu'on a réussi à construire entre nous, toujours l'équipe en premier, toujours être présent pour faire grandir l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, bon mais ça je reprends un peu les mots d'entraîneur, mais l'équipe de France ça nous appartient pas. Notre place ne nous appartient pas, on est là juste pour écrire un petit bout de l'histoire de l'équipe de France. Donc forcément, il y a une concurrence, mais ce qu'on veut, c'est que l'équipe de France soit championne olympique. Il y a un groupe d'une trentaine de joueurs à peu près sélectionnables. Donc forcément, quelques joueurs vont rester en dehors des Jeux olympiques. Mais ça, on le sait depuis le début, donc on s'y est préparé. Je pense qu'on a rendu la tâche assez difficile à Jérôme avec ces derniers tournois à Madrid où vraiment les joueurs ont été tous extraordinaires. Donc c'est lui qui prendra les décisions qu'il faudra.
Il y en a un quand même qui fait beaucoup parler de lui, évidemment, on est obligé de t'en parler, c'est Antoine Dupont, qui est arrivé cette saison. 3 tournois, 3 médailles, 2 titres, il a été nommé rookie de l'année à Madrid. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il vous apporte concrètement sur le terrain, Antoine Dupont?
Ben, la gagne. Non.
C'est vrai non, que c'est très concret, ça.
C'est concret, au moins.
Voilà, c'est concret. Hein. Ouais. Mais Antoine, tout le monde le sait, c'est vraiment un joueur. Moi, ce qui m'impressionne personnellement chez lui, c'est son intelligence de jeu. Mmh. C'est un garçon qui, dès qu'il met le pied sur le terrain, c'est toujours se poser les bonnes questions, être efficace, réussir tout ce qu'il fait. Il est vraiment très, très déterminé et c'est ce qui nous apporte. Voilà, une détermination de gagner. Forcément, c'est un très grand joueur. Même s'il est petit par sa taille, mais c'est un très grand joueur. Je pense qu'il impacte quand même assez les équipes en face quand il joue. Donc, ça peut nous ouvrir des portes un peu à côté. Donc, c'est vraiment un plus pour l'équipe. On est content de l'avoir et je pense qu'il se met bien au service de l'équipe. Il apporte énormément pour que l'équipe gagne quand il est là.
Ce week-end, on l'a vu débloquer clairement une situation, notamment contre le Royaume-Uni, où il marque cet essai absolument tout seul alors que vous étiez en infériorité numérique. On sent, en tout cas depuis les tribunes, que quand il est sur le terrain, il fait un peu peur quand même aux adversaires. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous êtes plus confiant quand il est là? Est-ce que vous sentez l'adversaire qui, quand il entre, parce qu'il entre souvent en cours de jeu à la mi-temps, c'est la stratégie de Jérôme Daret, est-ce que vous sentez que les adversaires se disent mince, voilà Antoine Dupont?
Ça, on le présume. Après, nous, on ne se construit pas notre confiance sur Antoine Dupont parce que sinon, ça va être compliqué à gérer s'il arrive quoi que ce soit. Donc, c'est Antoine, quand il est sur le terrain, il amène ses compétences comme notre joueur. Chaque joueur a essayé d'amener ses compétences à l'équipe et nous, on essaie énormément de se connecter entre nous. C'est ce qui fait notre force. Parce que je le dis, je le redis, ça, c'est très, très important. Un tournoi de rugby à 7, ça se gagne à 13 ans. Mais vraiment, il faut arriver au bout avec 13 très bons joueurs qui ont bossé collectivement et sur tous les matchs pour remporter chaque match qui nous amène vers la finale. Après, forcément, Antoine, c'est un joueur qui est très très connu en plus. Donc, je pense qu'il impacte énormément les adversaires. Mmh. C'est sûr qu'il est un peu plus surveillé que les autres. Et ça, nous, on en bénéficie pour avoir des petites portes, des petits accès sur le terrain. Donc ça, c'est du bonus.
Alors, évidemment, on lui a aussi posé la question à Antoine Dupont de savoir un petit peu ce que lui a apporté le rugby à 7. Il nous a dit tout le plaisir qu'il avait dans cette nouvelle discipline.
Mais j'essaie de prendre tout ce que je peux prendre. C'est déjà beaucoup de plaisir. Je retrouve beaucoup d'enthousiasme aussi dans un jeu plus délié, plus instinctif. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de travail aussi derrière, de travail spécifique, que ce soit physique mais aussi technique. Donc j'essaye de prendre tout ce qui est à prendre, que ça puisse me resservir au 15. Et c'est vrai qu'on a parlé pas mal des rucks parce que c'est à 7, c'est hyper important. Comme par exemple les coups d'envoi où moi je suis moins investi, évidemment. Mais il y a pas mal de secteurs de jeu qui sont hyper importants à ce sport et qui sont évidemment utiles à 15.
Bon, Paulin, on connaît donc le programme d'Antoine Dupont qui va rejoindre le Stade Toulousain pour préparer les phases finales de Top 14. C'est quoi le programme pour les 7istes là jusqu'au JO?
Mais là, on a seulement 6 jours de récup, de récupération à la maison, où on va se régénérer quand même, bien se ressourcer.
Ouais.
Et on part sur la préparation des Jeux Olympiques à partir de lundi prochain.
Vous allez vadrouiller un peu ? Vous allez dans le sud ? Vous allez vous rester à Marcoussis ?
On va débuter la préparation à Cabreton pendant presque un mois et demi, je crois. Et après, on partira une semaine à Marcoussis.
D'accord.
Et on finira au village olympique. Mmh. Ensuite, ça sera le début des JO pour nous.
Bah oui, vous allez ouvrir le bal. Hein. On le rappelle. Peut-être un mot, Pierre, aussi sur la performance des Françaises, puisqu'on avait une double finale française, tricolore. D'un côté, on avait donc les Bleus face aux Argentins, gagnés. En revanche, pour les Bleus ES, ça s'est moins bien passé face aux Australiennes.
Toujours ce petit cap à passer face aux Australiennes, la bête noire de l'équipe de France. Il me semble qu'elles ont gagné une seule de leurs 7 confrontations cette saison avec les Australiennes, qui étaient plus fortes à nouveau en finale, à nouveau un triplé de Madison Levi. Victoire 26-7. Des Australiennes, quand même, il faut retenir ce bon tournoi des Françaises, qui ont perdu 2 matchs, les 2 contre les Australiennes, un en poule et en finale, combattu l'Irlande, les Fidji et le Canada, la surprise en demi-finale. Les Françaises arrivent quand même avec cette médaille d'argent, arrivent avec le plein de confiance, elles qui sont, on le rappelle, vice-championnes olympiques à Tokyo, qui ont terminé 3e de la saison régulière. Ouais. Comme les hommes, ça va être une vraie belle chance de médaille également au JO.
Paulin, un mot peut-être des Bleus, des femmes, des Françaises, toi qui les suis, puisque depuis cette saison, vous avez vraiment un calendrier calqué, tous vos tournois sont ensemble. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance et qu'est-ce que tu penses de ce plafond de verre des Australiennes ou des Néo-Zélandaises que les Bleus, malheureusement, ont bien du mal à battre ?
Mais déjà, on va s'appuyer sur leur expérience des Jeux Olympiques passés, puisqu'elles sont quand même médailles d'argent, vice-championnes olympiques à Tokyo. Donc, je pense qu'on va pouvoir se servir de leur expérience. Mmh. Après, sur le tournoi, elles ont quand même construit correctement leur tournoi. Elles ont fait un match assez solide face au Canada, mais bon, un peu dangereux à la fin, où ça aurait pu mal finir.
Ouais.
Et voilà, malheureusement, c'est vrai que l'Australie et la Nouvelle-Zélande quand même a dominé énormément le championnat féminin cette année. C'est les deux équipes qu'elles n'arrivent pas tout le temps à battre.
On peut dire même rarement, si on prend juste cette saison-là, là pour le coup. Ouais. Même si elles l'ont fait, effectivement, hein, t'as raison, elles en sont capables.
Et ouais, c'est la dernière marche. Je pense qu'elles vont, elles vont bientôt trouver les clés. Parce que moi, sans être chauvin, honnêtement, elles ont des filles qui sont les plus athlétiques presque du circuit. Mmh. On peut comparer un peu Anne-Cécile Sofani à Madison Levy.
Ouais.
Honnêtement, voilà, c'est l'une des meilleures joueuses du monde. Okemba aussi, Séraphine, qui est vraiment extraordinaire, qui a des qualités physiques extraordinaires. Donc je pense que, je l'espère en tout cas, je mise sur une médaille d'or pour elle aux Jeux Olympiques à Paris, ça serait une récompense extraordinaire.
Allez, on va miser sur des médailles d'or et pour les Français et pour les Françaises, et on va surtout suivre évidemment votre prépa olympique. D'ici là, merci Paulin, merci d'avoir été avec nous. Salut, repose-toi bien avant la reprise.
Oui, on va se régénérer en famille et puis c'est reparti.
Bon, on compte sur toi pour être en forme. Merci Pierre aussi pour ton suivi contre vents et marées de nos Bleus à Madrid. Merci à Roxane Lacusca à la production et à Julie Deroux pour la réalisation de cet épisode. On vous retrouve vite pour de nouvelles aventures olympiques. En attendant, portez-vous bien. Salut.